On a souvent parlé du commerce local à Montréal. Là, il y a des audiences actuellement parce que les commerçants se plaignent de l'attitude de certains propriétaires, des comptes de taxes élevés. Alors, comment on fait pour remplir les commerces qui sont quand même vides, là, les locaux qui sont vacants?
Oui, il y en a des cas qui nous sautent au visage. Évidemment, il y a eu la rue Saint-Denis qui, paraît-il, va un peu mieux de ce temps-là, là, mais qui a été à un commerce sur quatre de fermé pendant un an. Maintenant, ce sera un commerce sur cinq. Mais moi, je vois pas une solution. Il y en a eu d'autres. Là. On a beaucoup parlé du marché Jean Talon. Il y a la rue Saint-Hubert avec les travaux. Moi, je vois pas une solution à grandeur. Je vois deux. Au moins, on divise en deux. On divise les rues de proximité. Puis on a des belles rues de proximité à Montréal. On a des rues qui sont au cœur de la vie des quartiers. Tu sais, Mont-Royal, Masson, Fleury, Queen Mary, Monkland, Saint-Viateur, Laurier-Est, Bernard, dans Outremont, Sainte-Catherine-Ouest, à l'ouest de Guy. On en a. Là. C'est fabuleux. T'as Monk aussi dans Verdun,
La Salle.
Sud-Ouest.
Wellington.
Ouais, dans La Salle. Wellington, Sherbrooke-Ouest dans NDG. Tu sais, c'est le fun, là, c'est toutes ces petites rues-là. Et tu as les rues de destination, là, Saint-Laurent, Saint-Denis, le marché Jean-Talon, Sainte-Catherine dans le village, Sainte-Catherine au centre-ville, Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, etc. Et c'est pas pareil, la dynamique n'est pas pareille entre les deux. Dans les premières, tu veux garder des commerces de proximité, donc un traiteur, une boulangerie, un nettoyeur. Pour ça, tu as besoin des loyers bas. Fait qu'il faut que tu contrôles les loyers. Et on n'a pas d'outils pour contrôler les loyers. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant là où il y avait une bijouterie. Alors, il va demander un changement de zonage. S'il y a du contingentement, il va demander d'échapper au contingentement. Et la pression de certaines personnes est forte pour faire upgrader en anglais ces rues-là, puis avoir des commerces plus payants pour eux. Et ça, il faut contrôler ça. Moi, il y a plusieurs manières de contrôler ça. Il faut être assez sévère sur le zonage. Il ne faut pas donner de dérogation. Il ne faut pas permettre de commerce au deuxième étage. Le commerce, il n'y aura pas une augmentation du nombre de commerces. Là. Alors, il faut que ça reste au rez-de-chaussée. Sur Saint-Denis, à une époque, il y a beaucoup de commerces qui se sont installés aux étages. Pas bon, ça. Faut ramener de l'emploi au deuxième, au troisième étage, des gens qui travaillent dans ces étages-là puis qui vont aller nourrir le commerce d'en bas, la vie de quartier aussi. Et par contre, pour le commerce de destination, là, je pense que c'est un autre mix. C'est un mix où là, il faut contrôler les taxes. Parce que les taxes et les loyers, mais on doit faire des réductions de taxes. La ville a commencé à en faire. Peut-être faut le faire de façon plus agressive. Mais il ne faut pas faire des réductions de taxes si on ne contrôle pas les loyers. C'est-à-dire si on n'a pas un outil pour contrôler les loyers. Parce qu'il y a des entrepreneurs véreux. Véreux, agressifs.
Des propriétaires.
Des propriétaires. Ouais. Bon, propriétaires agressifs, ouais. On va dire ça. Tentent par tous les moyens d'augmenter les loyers. Alors, s'il y a une diminution de taxes, ils vont simplement aller la chercher.
Tu es un entrepreneur à Montréal, tu te lances avec un commerce, tu vas payer le plus de taxes municipales au Canada, avec l'exception de Toronto, qui est à peu près équivalent, et Vancouver. Avec Toronto et Vancouver, qui ont compris que c'était un réel problème. Là, parce que quand on parle de milieu de vie, c'est ça à quoi tu faisais référence. Luxe, c'est des endroits où les gens sont en mesure de marcher de leur domicile, de pouvoir aller prendre un café, aller acheter de l'épicerie, aller dans un restaurant, consommer aussi de la culture. Si tu n'as pas des milieux de vie forts, tu donnes des raisons pour retourner en banlieue. Et ce qu'on veut en ville, c'est que les gens marchent, que les gens utilisent le transport en commun. Et donc, ces commerçants-là sont très, très importants pour la vie, la richesse de la vie de la ville. Et on est en train de les tuer. Quand on regarde aujourd'hui des restaurants, par exemple, sur la rue Peel, qui vont payer 100 000 piastres de taxes foncières par année, j'ai eu des conversations avec les gens d'une chaîne de cinéma en France, une chaîne extrêmement bien établie, qui arrive ici, qui regarde ça et qui dit « Wow, c'est intéressant, développement à Montréal », et qui tout d'un coup regarde le compte de taxes qui est l'équivalent de ton loyer, puis qui dit « Attends une minute, là, nous autres à Paris, on n'a pas deux loyers, on a un loyer, puis on a un compte de taxes, il va falloir qu'on revoie complètement comment est-ce qu'on va calculer le foncier, qui est aujourd'hui 3,8 fois le taux de taxation du résidentiel. Et ça, c'est pas acceptable. Il y a d'autres façons aussi d'y arriver. San Francisco a regardé un programme qui s'appelle le Legacy Business Program, qui identifie les espèces de commerces qui sont là depuis 25 ans et qui sont des commerces importants pour la ville, des espèces d'égérie, si vous voulez, de la ville, et qui, pour ces commerces-là, vont développer des programmes particulier.
Ah, c'est intéressant. Oui. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve ça très intéressant.
Ça, je pense que c'est à examiner. Parce que quand tu as des commerces de 30 ans, de 35 ans, qui sont importants pour la vie
mettons.
De l'Express et autres, qui ferment parce qu'ils n'ont plus les moyens d'opérer, moi, j'ai un réel
problème
avec ça.
Mais quand tu parlais tantôt de contrôle des loyers, là, comment tu veux contrôler le loyer?
C'est difficile, mais faut faire une régie. Faut faire une régie du logement commercial, du loyer commercial. On a tellement d'exemples. T'sais, le restaurant, tu sais, c'est difficile d'ouvrir un restaurant, là, mais le restaurant qui va bien, l'histoire est typique. Là. Dès qu'il arrive à la fin de son bail, le propriétaire lui double le coût du loyer en disant « Toi, tu fais de l'argent, moi, je vais en faire. » Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que si, premièrement, en doublant, tu viens de tuer la poule aux œufs d'or. Deuxièmement, si lui fait de l'argent, c'est peut-être parce qu'il en a perdu depuis 10 ans dans toutes sortes d'autres restaurants qui n'ont pas marché. Pour une fois, qu'il en fait, qu'il y aurait un peu de possibilité de bien payer son
monde. J'ai vu à New York là, des reportages sur des cas comme ça là, de restaurants qui, après 2 ans, mettons, avaient beaucoup de succès. Le bail venait à échéance, puis c'était une augmentation de 200%. Sinon, puis là, tu es obligé de déménager puis de trouver un endroit ailleurs.
En fait, là, totalement. Puis la stratégie de certains de ces propriétaires-là, là, c'est je vais te faire une augmentation impossible, puis après ça, on va négocier ce qui te permet de survivre. C'est ça, là. Je t'amène un coût absolument impossible. Puis là, OK, ben là, tu vas me dire, je m'en vais, OK, je vais t'enlever un 10%. Puis, et quand ils sont même pas à la fin du bail, ils arrivent, ils débarquent, ils ont acheté l'immeuble, puis ils disent, OK, maintenant, il y a des coûts de gestion. C'est, dans la ligne, il y avait marqué coûts de gestion, mais vous ne l'aviez pas lu, là, en petit, là, puis c'est des coûts de gestion de 1 500 $ par mois.
On ne peut pas suggérer suffisamment aux commerçants de faire affaire avec des avocats pour comprendre qu'est-ce qui doit être inclus dans un bail. Parce qu'effectivement, quand les baux rentrent et que tu as des frais de service qui passent, moi, j'ai un cas en ce moment, là, on payait 10 $ le pied carré de frais de service, c'est monté à 28 $ de frais de service du jour au lendemain. Alors, parce que le propriétaire est arrivé, a rajouté les amortissements des travaux qu'il a fait, les réparations sur les ascenseurs, etc., etc. Tu parles de régie, il y a d'autres moyens. Tu as aussi les baux à long terme. Il y a beaucoup de villes qui vont encourager une publication des baux et qui vont aider les commerçants à mettre en place des baux à long terme avec des clauses de renouvellement automatiques.
Je regardais hier dans The Gazette, c'est un gars qui fait dans la promotion, si on veut, puis la gestion d'immeubles, qui dit qu'il y a des propriétaires greedy, là, des gratteux.
Vide, puis ils vont le garder vide pendant...
Ça les dérange pas, il n'y a pas d'hypothèque.
Tu as des façons de le corriger, bon, entre autres, l'augmentation des taxes sur une base linéaire. Tu es absent depuis 6 mois. Tu es absent depuis 6 mois, il n'y a personne dans ton local, tes taxes vont augmenter de 25%. Un an, les taxes vont augmenter de 50%. 2 ans, les taxes doublent.
Donc, il y a ça à Chicago, il y a ça à Bruxelles, et le problème pour Montréal, c'est que ce n'est pas dans la loi d'aménagement de la LAU, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, parce que l'usage vacant, donc local vacant, cet usage-là n'existe pas dans la loi. Alors, ça fait 2 ans que Montréal fait des pressions pour avoir ça à Montréal et que Québec ne réagit pas. Le temps est venu d'avoir un usage pour les locaux vacants. Ce n'est pas des dizaines de logements, de lieux commerciaux qui vont être touchés par ça. Mais c'est peut-être quelques dizaines, justement, à Montréal. On a des exemples précis là, qui restent vides. Le Rapido au coin de Mont-Royal puis Saint-Denis, là, c'est peut-être l'adresse commerciale de la rue Mont-Royal et de la rue Saint-Denis, là où il y a le plus de monde, la plus fréquentée. C'est une jeune fille qui a hérité de ça. Elle habite à Toronto. Ça ne l'intéresse pas. Elle n'est pas là. Elle répond jamais au message. Elle reçoit sans doute une quinzaine d'offres par année. Elle n'ouvre même pas les enveloppes. Ça, c'est pour des cas comme ceux-là. Mais sinon, c'est pas pour la moyenne.
Mais t'as
des
propriétaires cas. Aussi là, qui disent, moi, là, j'ai des comptes de taxes élevés. Toi, tu as enlevé des espaces de stationnement, mes clients ne peuvent pas venir.
Oui, mais moi, je ne suis plus là. Fait que tu
non, je le sais, mais c'est toi qui les as enlevés pareil. Je
me suis sauvé.
Non, mais tu comprends? Puis ils disent, on a fait fuir une partie de la clientèle aussi.
Oui. Bon, à ça, écoute, l'espace de stationnement, là, c'est sûr que les gens rêvent d'avoir un public qui va venir de partout à Montréal, puis qui, eux, vont attirer ce public-là, puis c'est un public qui va leur être fidèle. Moi, je pense que ça n'existera plus. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas venir de Lanoraie pour venir sur une terrasse sur la rue Saint-Denis, là. Pas vrai.
Moi, j'y crois. Moi, je crois que la rue Saint-Denis, la rue Sainte-Catherine, à condition qu'on les nourrisse adéquatement, qu'on ait une vision de développement pour ça, peuvent être des destinations que les gens vont vouloir fréquenter. Tu connais mon point de vue par rapport au trottoir chauffant. Je te donnerai tout le backup pour te démontrer que c'était économiquement viable. On a un petit différent là-dessus. Mais par exemple, la rue Saint-Denis, on est passé à côté d'une belle opportunité d'élargir les trottoirs.
Quand tu dis «
capable...
oh », là, c'est Denis Coderre.
Excluant les personnes... excluant les personnes qui parlent, disons.
Non, non, c'est à l'époque de Denis Coderre.
C'est
mais
un enjeu.
Oui, il faut en faire des lieux d'attraction, mais je suis pas certain.
Commerçants, on vous aime, OK? On a besoin de vous, puis on va venir vous aider.
Le sujet le plus important de la semaine, Harry et Meghan, et la question qui, je dirais, remplit ma boîte vocale. Êtes-vous sérieux, M. Arcan? On va-tu payer pour les gardes du corps, du prince, puis du duc, puis en fait, puis de la duchesse? Et combien ça coûte si jamais il faut le faire? Décarie, Marc.